Réplique, histoire, mémoire et actualité d'antisémitisme avec Olivier Lalieu et Yannis Roder. Au moment même où avaient lieu les cérémonies du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz, la Fondation pour l'innovation politique et l'American Jewish Committee publiaient une radiographie de l'antisémitisme en France. On y apprenait notamment que 4% des jeunes juifs entre 18 et 24 ans déclare avoir subi un acte antisémite, 79% une agression verbale, 39% une agression physique. Il était écrit dans la même étude que les Juifs de France multiplient les stratégies d'invisibilité pour se fondre dans la masse. On évite certaines rues ou certains quartiers. On se résigne à ne pas porter de kippa. On renonce à apposer une mezouza devant sa porte. La mezouza est un petit étui qui contient le texte le plus connu du rituel juif sur un rouleau de parchemin. La coïncidence entre cet anniversaire et cette enquête me dicte ma première question à Yannis Roder, qui est professeur d'histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis, et à Olivier Lalieu, qui est historien et responsable des projets externes au mémorial de la Shoah. Le devoir de mémoire, si souvent invoqué, depuis le début des années 1990, a-t-il failli, Olivier Lalieu ?
Alors c'est une concordance qui ne peut que nous interpeller. Le constat est posé. Il est, je dirais même, qu'il s'aggrave, commémoration après commémoration. Mais je pense que la coïncidence doit être relativisée. D'abord parce que ce constat de la montée de l'antisémitisme, il est présent en France, il est présent dans de très nombreux pays. Mais je crois que ce qu'il y a derrière l'expression « devoir de mémoire » et tel que Sébastien Ledoux l'a étudié avec d'autres, montre que ce besoin, cette exigence de mémoire, elle est d'abord le reflet du combat porté par les rescapés, les survivants, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce combat-là, il s'est incarné à travers cette expression popularisée en 1995 dans l'édition française d'un texte de Primo Levi, et il donne en quelque sorte, il pose un mot sur en vérité un combat porté par les survivants dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que ce combat-là était légitime ? Est-ce que finalement le combat porté aussi par les combattants là, les anciens combattants de la guerre de 14-18 qui forgent ce mot « plus jamais ça » qui, à son tour, sera récupéré par les survivants des camps dans leur diversité en 1945 a failli. C'est une question, mais en tout cas, le combat a été posé, l'exigence qui était la leur était légitime. Il n'en demeure pas moins que cette montée de l'antisémitisme, et qui, je veux dire, n'est pas seulement, ne se traduit pas en mots, et on aura l'occasion évidemment de revenir là-dessus. Je dirais que ce constat-là aussi porte des réalités évidemment complexes, qu'il nous interpelle aussi parce que ce chiffre s'aggrave quand on observe à travers ce sondage les catégories les plus jeunes. Et par ailleurs, derrière ce poids des mots, ce poids des préjugés qui ne diminue pas, dont on pourrait même avoir le sentiment, évidemment, qu'il progresse, il y a une réalité criminelle sur laquelle il nous faudra également revenir.
Yannis Roder.
Oui, la question que nous nous posons, c'est, à mon sens, de savoir si nous ne nous sommes pas illusionnés, finalement, avec l'idée que ce, entre guillemets, devoir de mémoire aurait été un rempart contre le retour de la haine, pour le dire très clairement, le retour de l'antisémitisme. Et il faut quand même voir que ce devoir de mémoire a été quand même brandi concomitamment à la montée du Front National, qu'on l'a imaginé comme étant vraiment cette protection contre le retour de la haine, comme si d'ailleurs le pire était toujours l'issue, l'issue des discours. Et il nous faut constater effectivement que peut-être la manière, le ton, le contenu des discours qui ont accompagné ce que l'on a appelé à une époque le devoir de mémoire, eh bien n'ont pas empêché ce retour de la haine et en tout cas semble ne pas avoir été totalement efficace. Je dis totalement parce que il ne faut pas non plus généraliser le retour de la haine antisémite. Elle est quand même peut-être même circonscrite à certains territoires, peut-être même à certaines populations. Il faut peut-être regarder cela de plus près. En tout cas, elle n'a pas empêché, ce devoir de mémoire n'a pas empêché ce retour de la haine.
Oui, mais peut-être venez-vous de nous mettre, Yannis Roeder, sur la voie d'une explication. Vous avez dit, c'est un peu en réponse à la montée du Front National, de l'extrême droite donc, qu'on a brandi le devoir de mémoire. Et je me souviens qu'à la télévision, on montrait, à chaque fois que Jean-Marie Le Pen commettait un dérapage, soit nuit et brouillard à la télévision, soit même, dans les cas les plus graves, on rediffusait le film de Claude Lanzmann, Shoah. Mais là, je vois le problème. Parce que vous avez parlé de retour. C'est-à-dire, ce qui est impliqué par le devoir de mémoire, c'est l'idée que l'antisémitisme, s'il se produit à nouveau, aura la forme qu'il a eue, justement, dans les années 30, avec l'apocalypse nazi. C'est-à-dire, on pense à l'antisémitisme à travers le démémoire, mais jamais un antisémitisme qui pourrait se présenter sous d'autres traits que ceux de l'hitlérisme. Comme si le devoir de mémoire devenait une obnubilation. On ne guette que le retour, on ne veut voir que les vieux démons. Je donne deux exemples. Et alors, quand ce n'est pas ça, on est complètement dérouté. Premier exemple, 2012, un journaliste du Nouvel Observateur apprend le nom de l'assassin de Toulouse et de Montauban. Première réaction, qu'il a, je crois, tweeté, « Putain, je suis dégoûté que ce ne soit pas un nazi ». Et vous, Yannis Roeder, dans votre livre « Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse », vous citez ce journaliste du Monde, vous ne le nommez pas, sur le plateau de l'émission de Daniel Schneiderman. Ça devait être arrêt sur image.
Tout à fait.
Il affirmait en 2006 que l'assassinat d'Ilan Halimi était certes un crime crapuleux, mais n'était pas antisémite, car l'antisémitisme, c'est le nazisme. Voyez, comment la mémoire qui devrait nous rendre vigilants nous aveugle à la réalité présente, car elle ne pense pas à un présent qui ne s'est pas présenté, à des démons qui n'est pas la figure des vieux démons tels que l'antisémitisme raciste et nazi les a figurés. Est-ce que c'est pas ça le grand problème?
C'est à tout le moins une partie du problème. Et d'ailleurs, si on se remet un peu en perspective, on peut se souvenir des grands débats qui ont animé la communauté des rescapés des camps, incapables, après-guerre, de voir le goulag, finalement, comme aussi une expression d'un système concentrationnaire, et de quelle manière David Rousset, en 1949 et dans les années qui ont suivi, ont subi des attaques dans le contexte de la guerre froide tout à fait importantes. Donc cette question de penser la nouveauté, de ne pas seulement rester posé et figé finalement dans une posture de vigilance enfermée dans un schéma, elle est finalement répandue. Il n'en demeure pas moins, malgré tout, que, je reprends votre expression, des vieux démons, on voit aujourd'hui aussi que cette filiation de l'extrême droite, des néo-nazis, des identitaires, que ce soit en Europe, en Allemagne, aux États-Unis, elle n'en reste pas moins ancrée aussi, mais pas que. Enfin, pas que cette composante-là, ancrée finalement dans cette filiation et aussi potentiellement dans cette démonstration criminelle. Est-ce que le danger ne vient que de là? Évidemment, évidemment que non.
Yannis Roeder.
Oui, ce que vous dites, Alain Finkielkraut, me renvoie à ce que j'ai vécu et à ce que d'autres ont vécu avec moi au moment où nous avions sorti en 2002 ce livre « Les territoires perdus de la République », qui a été, ce qui a été pour moi une surprise à l'époque, c'est que ceux que je considérais comme étant de camp politique, si vous voulez, Et donc, habituellement, antiraciste et dans les rues, dès qu'il s'agissait d'agressions racistes ou antisémites, eh bien, une grande partie de ces gens ne m'ont pas accompagné, ne nous ont pas accompagnés dans la dénonciation de l'antisémitisme. Pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, comme vous l'avez très bien souligné, ne venait pas de ceux que nous connaissons, de ceux dont nous avons l'habitude de nous prémunir, de ceux contre lesquels nous avons l'habitude de nous battre. Et effectivement, de nouvelles voix s'élevaient pour dire leur haine des Juifs, mais ces voix venaient de populations qui étaient considérées par la gauche, dans une grande partie de la gauche en tout cas, comme des victimes sociales, des victimes post-coloniales, des victimes de la colonisation, et donc comme si leur logiciel les empêchait de penser que, eh bien, des victimes, réelles ou supposées, peu importe, ce n'est pas ma question, pouvaient elles-mêmes être des bourreaux. Et c'était la réalité. Et la réalité, il a fallu bien des années et il a fallu bien des morts pour qu'elle puisse être acceptée. Encore faut-il qu'elle soit acceptée par tous.
Oui, elle est-elle, parce que vous dites ce sont des victimes sociales, mais aussi, dit-on, des victimes du racisme. Or, on a le sentiment, justement, que depuis qu'on admet que la Shoah est au cœur de l'histoire du XXe siècle, l'antiracisme est devenu la morale fondamentale en France et en Europe. Et personne ne s'en plaindrait. L'antiracisme consiste à affirmer l'égale dignité des personne. Et il est vrai que l'utopie nazie, c'était de construire un monde, après l'élimination des Juifs, cette antirace, sur la hiérarchie des races. Oui, mais là, cette morale peut elle-même se transformer en idéologie, notamment quand on dit que les principales victimes du racisme aujourd'hui, ce sont les immigrés, et les immigrés musulmans, et que ceux-ci sont les nouveaux juifs. Car c'est le discours d'Enzo Traverso, de Luc Boltanski, d'Edoui Plenel dans son livre pour les musulmans. Donc, la mémoire nous impose de défendre, face à l'islamophobie, les musulmans, comme hier, il fallait défendre les juifs face à un antisémitisme qui était un antisémitisme d'État. Et dès lors, ils sont pris au dépourvu, ces gens qui font cet usage de la mémoire, par un antisémitisme venu des principales victimes du racisme et qui serait même l'antisémitisme d'aujourd'hui. D'où leur trouble, d'où leur gêne, d'où cette très forte tentation du déni. Mais un déni étrange, puisqu'encore une fois, ils se réclament de la mémoire. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Et que faire face à un tel mouvement de pensée pour restituer un peu de vérité historique et de vérité présente ? Olivier Lalieu.
D'abord, je voudrais revenir, pour répondre à votre interpellation, sur un aspect. La mémoire, c'est à la fois la vigilance, mais c'est d'abord et avant tout l'hommage aux morts. Et la transmission, c'est d'abord, enfin, avant d'en arriver à la transmission, il y a d'abord l'hommage. Et de ce point de vue-là, je dirais que la mission d'institution, comme le Mémorial de la Shoah, elle est ancrée sur un double socle, hein, à la fois ce qui a fondé le Centre de documentation juive contemporaine dès la guerre, c'est le recueil et la préservation des traces, des archives, de la persécution et de l'extermination, et c'est d'autre part, dans la pensée de son fondateur Isaac Schneerson, à partir de 1956 et l'inauguration du mémorial du martyr juif inconnu, un hommage des juifs, un hommage de la nation aux 6 millions de morts juifs. L'hommage, il se suffit à lui-même, il est nécessaire, et je crois que avant de l'utiliser, avant de l'instrumentaliser, et pas forcément dans un sens négatif, hein, mais il y a d'abord cet hommage nécessaire des Juifs dans les familles et l'hommage de la nation à ces morts-là. Et je veux dire que cette mission-là, aujourd'hui, elle s'est construite, elle s'est renouvelée, mais elle se poursuit depuis 1945. Et aujourd'hui, un film, par exemple, comme J'aimerais qu'il reste quelque chose, de Ludovic Cantet, qui vient de sortir sur les écrans, montre au quotidien cette réalité de cet hommage nécessaire, de cet hommage, et de la manière dont, dans une institution comme le Mémorial de la Shoah, il vit, il est utile, à la fois à ce travail d'archives, à ce travail d'histoire, à ce travail pédagogique.
Alors, ce que vous venez de dire, en effet, est très important, Olivier Lalieu. Et d'ailleurs, dans l'article que vous avez publié sur le devoir de mémoire, dans la revue 20e siècle, vous parlez de Serge Klarsfeld et du mémorial de la déportation des Juifs de France, où il a dressé, avec le groupe restreint qui travaillait avec lui, la liste et la composition des convois partis de France. Et vous citez Jean Kelevitch. Le mémorial fait sortir de la nuit et de la nuée, en les appelant par leur nom, les innombrables fantômes anonymes, annihilés par leurs bourreaux, nommés les ombres pâles, c'est déjà les convoquer. Et je voudrais ajouter une autre citation que j'ai trouvée dans le livre très fouillé de Sébastien Ledoux, Le devoir de mémoire, une formule et son histoire. C'est un propos de Robert Badinter. Et il rappelle cette cérémonie qui a eu lieu et dans laquelle Mitterrand a été sifflé. C'est au moment de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et c'est vrai, il a d'ailleurs exprimé son indignation. Donc, il a commenté l'épisode lors d'un entretien avec Sébastien Ledoux. Et il a eu cette formule absolument magnifique. « Est revenu en moi ce que ma grand-mère répétait toujours et qu'elle me disait en yiddish, c'est que quand on parle des morts, ils nous écoutent. » Ils nous écoutent. Donc, en effet, l'hommage, c'est cela. C'est entretenir un lien avec les morts, les convoquer, se sentir écouté par eux, vivre aussi sous leur regard. Et cela, en effet, transcende toute forme d'utilisation qu'on peut faire, nécessaire parfois, du devoir de mémoire. Yannis Roder.
Oui, c'est très juste et c'est extrêmement important. Je voudrais revenir sur cette question de l'antiracisme que vous avez posé à la Finkielkraut. Un sondage a été fait en Belgique, que vous ne connaissez pas encore, parce qu'il n'est pas encore sorti, par Joël Cotet, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles, oui, dans les écoles de Bruxelles. Et il s'avère que, pour les jeunes bruxellois, en majorité, les premières victimes du racisme, au quotidien et d'une manière générale, sont les musulmans. Voilà, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que une partie, en tout cas, des gens qui se définissent ou qui se voient comme musulmans considèrent qu'ils sont victimes au quotidien du racisme. Les chiffres que vous avez donnés à la Finkielkraut pour commencer montrent que les statistiques placeraient plutôt les juifs comme les premières victimes des agressions et des agressions antisémites en l'occurrence. Il y a donc un décalage. Il y a donc un décalage entre ce ressenti et ce qui semblerait être la réalité donnée par les statistiques. Et de fait, cela interroge sur la manière dont ces jeunes perçoivent leur quotidien. Et en même temps, ça interroge, je crois, sur ce qu'est l'antiracisme aujourd'hui. Voilà. Et sur l'idée que, finalement, aujourd'hui, l'antiracisme, on le voit, on peut le constater, peut se retourner contre les juifs. C'est au nom de l'antiracisme que des juifs sont pointés du doigt, que des juifs sont assassinés, que, si on va plus loin, que l'État d'Israël est nazifié, c'est tout cela, c'est au nom de l'antiracisme, notamment depuis Durban, entre autres. Donc, il y a là quelque chose qui interroge vraiment sur ce que je considère, moi, être, moi qui viens de cette gauche antiraciste, une dérive, une réelle dérive de l'antiracisme qui questionne vraiment.
Oui, alors, en effet, au lendemain de la guerre, Bernard Nauss a eu cette phrase, souvent commenté, Hitler a déshonoré l'antisémitisme. C'est une phrase terrible, mais en même temps très profonde. Et on croyait que c'était vrai. Mais une métamorphose a eu lieu, c'est-à-dire que l'antisémitisme a investi, ou réinvesti, peut-on dire, la langue de l'antiracisme, qui est une langue immaculée. Et on a assisté, en effet, à un retournement de la Shoah contre les Juifs. On invoque la Shoah, mais pour dire, un, que les Juifs l'ont inventé pour asseoir leur domination sur le monde, ça c'est le négationnisme pur et dur qui va de de Faurisson à Dieudonné en passant par Alain Soral. Mais une autre forme de ce renversement, c'est l'affirmation que les Israéliens font subir aux Palestiniens le même sort que les nazis aux Juifs, ou bien, autre modalité, non plus la reddition, mais l'instrumentalisation. On se sert de l'industrie de l'Holocauste pour permettre à Israël, pour légitimer la politique colonialiste et annexionniste d'Israël. C'est donc une situation, en effet, très difficile, qui prend la vigilance à contre-pied, et je vais en donner une preuve. Je parlais du 75e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Il y a eu beaucoup d'émissions à la télévision, notamment une émission d'Yves Calvi, l'info du vrai. Donc il a fait venir des gens, etc., qui ont parlé d'antisémitisme, de sa résurgence, des problèmes qu'il posait, de ce qui s'était passé, etc. Et le lendemain ou le surlendemain, il y a une émission sur la liberté d'expression. Et à ce moment-là, on a diffusé un dessin du New York Times, que le New York Times a été obligé de retirer très vite. Un dessin terrible, vous le connaissez, c'est Trump, aveugle, avec une kippa sur la tête, et qui est traîné par un chien qui a la gueule de Netanyahou. Il s'agit d'Israël, et donc, c'était pas donné en exemple de l'antisémitisme, mais c'est donné en exemple de la censure, puisque ce dessin avait été retiré sous la pression communautaire par le New York Times. Là, ça devenait tout d'un coup de la censure. Or, ce dessin, si on a un peu de mémoire, rappelle carrément un discours de Hitler en 1942. Les tire-ficelles du malade de la Maison Blanche ont réussi à entraîner une nation après l'autre dans la guerre mondiale. Voilà, parce que Trump, l'hyperpuissance, est aveugle et c'est Netanyahou qui le guide. Donc, mais comme il s'agit de Netanyahou, comme il s'agit de l'occupation, on ne fait plus le rapprochement, et tout d'un coup, alors même que l'on se mobilise contre l'antisémitisme, on s'insurge contre le scandale qu'a provoqué un tel dessin. Ça a quelque chose de décourageant, non, Olivier Ladieux?
Alors, de décourageant, beaucoup de choses pourraient l'être, et en même temps, on ne sait qu'il n'y a de seule issue, finalement, que dans l'offensive et le combat. Et de ce point de vue-là, moi, je dirais que je reprendrai votre propos liminaire. Vous avez mis à la fois en avant les dérives et vous avez en même temps rappelé la nécessité de l'antiracisme, c'est-à-dire de cette nécessaire lutte et refus de cette hiérarchisation et de cette catégorisation de l'espèce humaine, pour reprendre le mot de Robert Antelme, en race. Donc on est dans cette difficulté, en effet, d'une dérive, d'une forme de dépossession, de retournement, de détournement, à la fois d'une histoire et de symboles qui s'incarnent dans ce port de l'étoile lors de récentes manifestations pour dénoncer...
L'islamophobie.
Contre l'islamophobie, entre guillemets. Ces calicots jaunes qui participent de cette campagne de détestation, de dénigrement, voire de contestation d'État d'Israël, où Gaza est assimilé à un génocide. Donc, plus que jamais, face à ces dérives, il y a ce nécessaire travail d'histoire, d'éducation, de réflexion, pour non seulement consolider ces grands principes, et en même temps lutter, contrer ces dérives.
Yannis Roder.
Oui, ces dérives, elles sont, à mon sens, le résultat, alors non seulement d'une histoire qui est mal comprise, mal assimilée, et en même temps d'une facilité de la pensée, d'un confort, si vous voulez, un confort intellectuel, le confort de la désignation d'un ennemi, toujours le même, ennemi, véritable clé explicative des événements du monde. Voilà, ce qu'on retrouve dans le discours, ce qu'on retrouve dans le dessin du New York Times, c'est, effectivement, on le retrouve chez Adolf Hitler, on le retrouve avant. Tout cela, ce sont des invariants de l'antisémitisme qui circulent, qui sont véhiculés et qui sont régulièrement réactivés, notamment aujourd'hui dans la lutte contre Israël, où on voit réactiver, par exemple, le mythe de la mort des enfants, enfin de l'assassinat des enfants, des choses comme ça que l'on voit et que l'on comprend être vraiment, enfin s'inscrire en tout cas dans une longue histoire de l'antisémitisme qui régulièrement se renouvelle, parce que l'antisémitisme a ceci de très étonnant, c'est qu'il est très plastique et qu'il s'adapte à l'époque, et prend de nouvelles formes.
Oui, alors justement d'ailleurs dans votre livre, Yannis Roder, vous rappelez que on fait ce genre d'analogie, Gaza égale génocide, camp de concentration de Gaza, une honte, et vous dites que la population de Gaza est passée de 82 000 habitants en 1949 à 1 900 000 aujourd'hui. Ce qui, pour un génocide, est quand même assez étrange. Et c'est terrible, parce qu'en effet, quand on dit cela, on peut être accusé de soutenir la politique israélienne de manière inconditionnelle. Alors que moi, en 1982, dès 1982, dans un livre intitulé « La réprobation d'Israël », j'essayais de plaider pour une critique rationnelle de cet État, et je ne cesse de militer pour la solution de deux États, avec fort peu de succès, il faut le reconnaître. Et donc, mais c'est vrai, il y a ce problème aujourd'hui, étant donné que la politique israélienne suscite, disons, des commentaires très négatifs, que la colonisation continue en Cisjordanie, on a du mal à dénoncer l'antisémitisme d'une certaine critique d'Israël, parce qu'on vous répond, mais oui, mais à ce moment-là, vous voulez soustraire Israël à toute forme d'analyse critique. Et on se heurte sans cesse à cette difficulté quand on discute autour de soi.
Yannis Rodel. C'est tout à fait juste. Effectivement, Israël, la politique du gouvernement d'Israël peut et doit être critiquée, comme la politique de n'importe quel État démocratique, et c'est le jeu de la démocratie. Maintenant, j'observe, moi, une sorte d'hystérisation, une radicalisation dans les propos, mais aussi une hystérisation dès qu'il est question d'Israël. Il suffit de regarder ce que signifie aujourd'hui pour beaucoup de gens le terme sionisme, qui est mal compris, dont l'histoire n'est pas connue, et qui considère finalement que être sioniste, c'est être un radical, c'est être quelqu'un qui a une position extrémiste, ce qui est historiquement, je parle du sionisme politique, ce qui est historiquement infondé. Et donc il y a une sorte de diabolisation aujourd'hui, non seulement de ce qu'est le sionisme, mais bien sûr des gens qui se définissent comme sionistes et de l'État sioniste, c'est-à-dire l'État d'Israël. Et à partir du moment où vous avez cette diabolisation et cette forme d'hystérisation chez une partie des gens qui s'expriment sur le sujet, il devient très compliqué d'avoir un discours sensé, posé, qui essaye de justement regarder la situation de manière objective, en tout cas la plus objective possible et la plus posée possible.
Oui, d'ailleurs, sur ce thème, il y a un manuel de la grave, un manuel rédigé par un professeur d'UFM qui était destiné en 2003 aux élèves de CAP et qui contenait un exercice d'écriture les invitant à se mettre dans la peau d'élèves palestiniens de Cisjordanie occupée qui ne peuvent se concentrer sur fond de bruit de chaînes et de chars et dont certains sont arrêtés le jour de leur bac. L'exercice de français en question consistait à écrire une lettre à Abou Sofia dans laquelle il lui était demandé de continuer à résister en gardant espoir. Alors les éditions de la Grave ont arrêté la diffusion de ce manuel à la demande du ministère de l'Éducation nationale, mais elles se sont défendues en indiquant n'avoir reçu aucune réclamation d'enseignants. Alors là, maintenant, donc, nous en venons à l'enseignement. Jugez-vous l'un et l'autre, Olivier Lalieu et Yannis Rodel, que il est bon, il était légitime d'instituer en France et je crois dans toute l'Europe un enseignement de la Shoah spécifique. Est-ce que c'est la voie que devait prendre, à votre avis, la transmission, Olivier Lalieu?
Je dirais que cette inscription dans les programmes scolaires, elle est d'abord le reflet d'une histoire à la fois longue, hein, et aussi d'une évolution à la fois de l'historiographie, qui a été au final pris en compte par l'enseignement, avec difficulté. Et vous avez cité tout à l'heure Serge Klarsfeld, il a été de ceux qui, dans les années 90, alors que pour la première fois depuis la fin des années 80, au sein de l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale, le système concentrationnaire, et plus encore, hein, la question du génocide des Juifs était désormais instituée au lycée, eh bien il a été de ceux, parmi les premiers, hein, qui ont constaté combien cet enseignement, à l'époque, au milieu des années 90, était pauvrement représenté, voire présenté de manière parfois erronée, dans les manuels scolaires. Donc, aujourd'hui, enfin, mais Yannis Rodel, qui l'exerce au quotidien, en parlera mieux que moi, mais je dirais que cet élément de la transmission qui est l'inscription dans les programmes scolaires d'un enseignement spécifique sur la Shoah est indispensable, mais que la question de son maintien, la question de sa forme et la question des liens qui doit être fait avec la question des totalitarismes, des mécanismes génocidaires, doit être sans doute non seulement consolidée, et on voit combien cette place dans les programmes scolaires, elle reste fragile. Elle reste aujourd'hui fragile. Rien ne dit de ce que sera cette place dans les programmes dans 10, 20 ou même 5 ans.
Yannis Roder.
Oui. Est-ce que la Shoah devait être un événement étudié comme tel, et c'est le cas depuis 1989, depuis que l'événement a été inscrit dans les programmes de manière autonome? Moi, je le pense, parce que tout simplement, en historien de formation, je pense que chaque événement a sa propre intelligence. Et donc, c'est cette propre intelligence que doivent montrer les enseignants, mais à la condition de ne pas aborder ce sujet sous un angle moral, moral au sens moralisant, c'est-à-dire c'est un événement historique et il doit être compris et étudié comme un événement historique. C'est-à-dire que, à mon sens, le travail, le but n'est pas la larme qui doit couler sur les joues des enfants ou des élèves, c'est bien sûr la compréhension des processus politiques qui sont à l'œuvre. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que la Shoah, c'est une politique publique. C'est une politique publique menée par un État avancé techniquement, avancé intellectuellement, qui a mis en œuvre une idée sans précédent dans l'histoire de faire disparaître de la surface de la Terre tout un peuple préalablement défini. Voilà. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir en essayant de faire comprendre comment se mettent en place les mécanismes aussi bien intellectuels, idéologiques que politique et pratique, dans une politique d'assassinat systématique de toute une population.
Et la question que je vous pose, c'est de savoir comment, aujourd'hui, dans les classes, et notamment dans les classes des quartiers sensibles, les élèves accueillent l'enseignement de la Shoah. Olivier Ladieu veut dire qu'on se demande ce qu'il en sera dans 5 ans, et c'est vrai, on s'interroge, est-ce que ce sera longtemps possible? J'ai sous les yeux le livre de Jean-François Chemin, Kiffe la France. Il a été professeur, il raconte ce qui lui arrivait quand il présentait notamment des images de nuit et brouillard. Les élèves réagissaient de manière extrêmement agressive. Et lorsqu'on voit des femmes nues, des femmes à poil, toute la classe éclate de rire. Et l'un des élèves dit... Non, monsieur, finalement, on ne peut pas nier que ce se soit passé comme ça, mais est-ce que vous ne croyez pas que le vrai problème n'est pas que ça se soit passé, mais que ça ne soit pas allé jusqu'au bout? Voyez tous les malheurs qu'on aurait évités depuis 60 ans. Est-ce que vous êtes heurté à ce genre de réaction aussi, Yannis Roder? Est-ce que cet enseignement pour vous est possible?
Je me suis heurté à ce genre de réaction il y a 20 ans. Quand je suis arrivé, j'ai pris mon poste à Saint-Denis, dans mon collège, j'étais bercé d'illusions, si vous voulez, d'illusions antiracistes, et dans la famille dans laquelle j'avais grandi. Famille politique comme famille charnelle. Oui, bien sûr, j'ai pris cela en pleine figure, et c'est très difficile de faire face à cela. Et ce qui m'a entraîné à une vraie réflexion, une véritable introspection en réalité, pour réfléchir sur la manière d'enseigner. Et ça a été le choix que j'ai fait, le suivant donc, de ne plus justement donner à cet enseignement une portée morale, mais une portée politique. C'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que mes élèves surréagissent dès qu'il est question de la Shoah, me disant qu'il y a d'autres victimes que les Juifs, me disant qu'on parle que de ça, et me disant effectivement, comme m'a dit un jour un élève, Hitler a pas fini le boulot. Donc, mon idée a été, et c'est ce que j'explique dans mon livre, a été d'inverser le prisme, c'est-à-dire d'entrer par les bourreaux, d'entrer par leur vision du monde, d'entrer par le système de croyances qui faisait sens chez les nazis, ce qu'on appelle l'idéologie, et de montrer la centralité de l'antisémitisme dans l'idéologie nazie, l'antisémitisme étant la clé explicative de toute l'histoire du monde dans le nazisme. Et entrer par cela, en étudiant des passages de Mein Kampf, en étudiant d'autres documents historiques, eh bien, si vous voulez, entraîne une disqualification une disqualification du nazisme aux yeux des élèves, quels qu'ils soient. Notamment quand vous parlez du programme T4 d'élimination systématique des handicapés mentaux ou reconnus comme tels, les élèves sont extrêmement choqués. Vous y liez bien sûr l'antisémitisme parce que la logique, si vous voulez, est très proche et il y a un lien, des liens hein, entre la T4 et la Shoah. Eh bien, les élèves sont extrêmement touchés par cela. Et je vous avoue et sans flagornerie aucune que depuis que je travaille là-dessus, de cette manière, je n'ai plus, durant les cours sur l'histoire de la Shoah, de remarques que l'on peut qualifier d'antisémites. Voilà, je n'en ai plus. Bernanos parlait de la disqualification de l'antisémitisme par Hitler. Bah, c'est un petit peu ça que je crois percevoir, parce que ça me permet de dire que l'antisémitisme tel qu'il s'exprimait dans mes classes et qu'il continue de s'exprimer dans d'autres classes, par exemple quand je suis en quatrième ou que les élèves ont parfois des réflexes où ils expriment un antisémitisme voilà qui leur semble tout à fait de bonne aloi et tout à fait normal. Eh bien, cet antisémitisme là, je ne le vois plus en classe de troisième. Il a été disqualifié et mes élèves, la plupart en tout cas, j'ose le croire, ne sont pas porteurs d'un antisémitisme politique, idéologique, mais justement qui relève d'une sorte de réflexe social, réflexe parfois culturel au sens où c'est une ambiance qui règne dans les milieux dans lesquels ils évoluent.
Donc, si je vous ai bien compris, Yannis Roeder, vous avez su désamorcer la colère et le ressentiment victimaire né justement de la centralité de la Shoah, parce que c'est un problème que je soulève devant vous deux. La Shoah a mis la victime au cœur, la victime plutôt que le héros, plutôt que le combattant. La victime des victimes, c'est le juif, et une sorte de ressentiment est né. Pourquoi le juif? Pourquoi pas nous? Je suis une victime, nous sommes des victimes. Et c'est là qu'on se dit que la mémoire qui visait à éteindre l'incendie, eh bien, elle semble, à travers ce ressentiment victimaire, mettre de l'huile sur le feu. Est-ce que c'est pas aussi le problème auquel nous sommes exposés aujourd'hui, Olivier Lalieu?
Écoutez, c'est à tout le moins un des aspects du problème, mais moi je pense qu'il faut aussi ne pas caricaturer les choses. Dans la mesure où cette question de la concurrence des victimes, hein, pour reprendre le titre du sociologue belge Jean-Michel Chaumont, bon, lui, il opposait dans son ouvrage, le ressentiment des déportés des camps de concentration face à la montée en puissance de la mémoire de la Shoah à la fin des années 90. Donc, je dirais que cette question de la... Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer les victimes entre elles. Il y a de fait des victimes de différents processus. Et justement, à travers l'approche que met en avant Yannis Roeder, et qui est au cœur, de la formation ou des ateliers mis en œuvre au sein du Mémorial de la Shoah, il s'agit de bien consolider ces différents aspects sans les opposer, sans les mélanger non plus. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a l'hommage, il y a la mémoire des descendants, des victimes, c'est une chose. Et puis, il y a la manière dont elle s'exprime dans une nation, aujourd'hui en France. Et le fait de travailler sur la singularité de la Shoah ne nie pas les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité qui ont frappé pendant la Seconde Guerre mondiale et en dehors de la Seconde Guerre mondiale d'autres populations. Il y a donc la nécessité de cette réflexion, de cette intelligence que dans de nombreux ouvrages qui sont les vôtres, Alain Finkielkraut, vous avez mis en avant. Il y a ce devoir d'intelligence et de réflexion.
Alors, vous avez raison, il faut en effet comparer et distinguer. Parce que, comme Yannis Roeder l'a dit, ce que l'extermination des Juifs a d'unique, c'est le fait que les nazis, comme l'a dit Hannah Arendt, se sont arrachés le droit de décider qui doit et ne doit pas habiter cette planète. Et cette décision mondiale, si vous voulez, aucun autre État génocidaire ne l'a prise. Ce n'est pas le cas du génocide arménien, du génocide des Tutsis, etc., ni même de cette horreur qu'a été la décolonisation. Alors, donc, il faut comparer, il faut affirmer la singularité. Mais là, j'ai une question aussi, parce que il existe aujourd'hui, on le voit beaucoup, une espèce d'appétence victimaire, comme si, en effet, la position de victime offrait un certain nombre de gratifications. Et donc, on compare de plus en plus des situations qui n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé aux Juifs. Vous citez Yanis Roder, ce manifestant qui arborait accroché à son porte-bébé arrimé à son dos un écriteau, nous sommes... C'est pendant les gilets jaunes, Hitler gazait les Juifs, Macron gaze le peuple, l'histoire continue. Et cette comparaison peut aller jusqu'à l'oubli du comparé. J'en veux pour preuve la dernière manifestation, la dernière célébration, la dernière cérémonie des Césars, où on a égrené quelques noms, vous vous en souvenez, de criminels, qui s'appelait Strauss-Kahn, qui s'appelait Simon Epstein, qui s'appelait Harvey Weinstein, qui s'appelait évidemment Roman Polanski, dont on ne prononçait pas le nom, ou encore Patrick Bruel. Mais peu importe, il y a eu un tweet après de deux femmes, les terriennes. Celui qui devrait être gazé, c'est Polanski. Je l'ai cité dans un article, et un journaliste m'a téléphoné, il me dit « Vous êtes trompé ». Il ne voulait pas dire ça, simplement, il y a eu une manifestation de féministes à l'extérieur de la salle Pleyel, et on a envoyé des gaz lacrymogènes à ces femmes. Et donc, l'une d'entre elles a dit, ou deux d'entre elles ont dit, ben oui, celui qui méritait d'être gazé, c'est Polanski. Donc elle ne pensait pas aux chambres à gaz. Mais c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on peut dire aujourd'hui, alors que le devoir de mémoire est omniprésent dans la conscience collective, celui qui devrait être gazé, c'est Polanski, sans penser à mal, sans savoir ce qui s'est passé, sans savoir qu'il est lui-même un rescapé de la Shoah. Ça, c'est le bout du bout de l'analogie funeste avec cet épisode dans lequel chacun voudrait puiser la légitimité de sa revendication. Yanis Roder.
Moi, ce qui me frappe dans ce dont vous venez de parler, Alain Finkielkraut, c'est finalement l'impression de connaissance qui est largement généralisée. On parle tellement de la Shoah, et la Shoah est devenue, le nazisme et la Shoah, je lis les deux, sont devenus tellement mainstream, si vous voulez, que tout le monde a l'impression de connaître cette histoire. Il n'y a pas une semaine sans que vous ayez un documentaire sur Arte, sans qu'il y ait une émission sur France Culture, sans quoi, qui traite soit du nazisme, soit de la Shoah, soit des deux en même temps. Et donc cette impression de connaissance, me semble-t-il, fabrique de l'amnésie. Fabrique réellement de l'amnésie. Comme me disait un jour une jeune stagiaire professeur d'histoire, à qui je proposais de m'accompagner lors d'un voyage de formation à Auschwitz, « Ah mais, Auschwitz je connais. » Je dis « Ah bon, tu y es allé ?» Mais non, mais enfin, tout le monde connaît. Je dis, ah bon, oui, effectivement, le nom, mais qu'as-tu lu sur Auschwitz? Bah rien. Donc, cette impression de connaissance, elle existe même chez une partie du monde enseignant. Donc, je crois que c'est cette fabrication de l'amnésie par l'omniprésence de l'objet Shoah et nazisme dans la société joue un rôle essentiel dans ce que vous venez de dire. Je me permets juste de dire ce que je crois que c'est Jeffrey Epstein et pas Simon Epstein qui est un historien.
Ah, Jeffrey Epstein, voilà. Vous avez raison.
C'est juste pour Simon Epstein, voilà.
C'est vrai, c'est un historien voilà, auquel oui. Ne cesse de se référer voilà, Éric Zemmour. Parce qu'il voudrait prouver que il y a eu beaucoup de Dreyfusards qui ont choisi la voie de la collaboration dans un livre intéressant mais très contestable. C'est Jeffrey Epstein, vous avez tout à fait raison. Mais alors, justement, il y a des gens, une impression de connaissance qui dispense de la connaissance. Auschwitz, je connais tellement que ça m'intéresse pas. Mais alors, justement, on multiplie aujourd'hui les voyages scolaires à Auschwitz. Je crois vous-même, Olivier Ladieu, vous y allez de temps en temps à Auschwitz. Est-ce que c'est une bonne solution? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Sensibiliser toutes les générations à cette réalité en allant sur le lieu du camp, du principal camp de concentration et d'extermination nazie. Olivier Ladieu.
Bah, là encore, moi je voudrais en toute humilité repartir de l'expérience du mémorial de la Shoah, hein, qui amène environ, tout public confondu, près de 4000 personnes chaque année, mais avec des origines et des finalités différentes. D'abord, et j'en reviens à cela, des descendants, des rescapés, des descendants des familles qui viennent là, finalement dans le prolongement des pèlerinages, hein, qui avaient été mis en place dès l'après-guerre sur ce site où étaient morts, où avaient été assassinés leurs parents ou les leurs. On amène aussi, et Yanis Röder, qui en est le responsable, le dira, plusieurs centaines d'enseignants dans le cadre de voyages de formation. Et puis aussi, environ 1500 élèves de toute origine, à la fois géographique et sociale, dans le cadre de projets pédagogiques menés avec des enseignants et en partenariat avec des régions et les rectorats. Donc, est-ce que c'est la bonne chose? Est-ce que, alors, l'entrée en matière est un peu compliquée, mais est-ce que c'est, en tout cas, c'est de fait, je parle ici uniquement des enseignants et des élèves, hein, parce que je crois que pour les descendants, il n'y a pas lieu d'expliquer le bien fondé de leur démarche. Pour les autres, je pense que c'est un des outils de formation et de réflexion qui existent, complémentaires d'autres initiatives, d'autres formes, mais s'agissant en tout cas des élèves, et c'est de cela dont je veux dire un mot, parce que ça nous permet de faire le lien aussi avec ces défis, ces enjeux qui sont à la fois face à nous et devant nous aussi. On observe qu'il y a des, je le dirais de manière très, très crue, ces jeunes-là sont le reflet de la diversité de la jeunesse de France. Ils sont encadrés par des enseignants, à la fois les enseignants comme les élèves sont volontaires, mènent un travail au cœur duquel il y a ce voyage d'études in situ à Auschwitz, ancré dans un travail qui, tout au long de l'année scolaire, que ce soit durant une préparation menée en lien avec le mémorial, une préparation historique et pédagogique, et ensuite à l'issue du voyage d'études, des restitutions, va leur permettre d'approfondir cette question de la Shoah et d'Auschwitz.
Yanis Röder.
Moi, je suis frappé par une chose. Oui, je suis frappé par une chose, Olivier Lalieu. Vous parlez des voyages scolaires et je comprends tout à fait et je soutiens cette idée que cela peut avoir une véritable utilité. Mais je suis quand même frappé par une chose, parce que moi, je m'occupe des voyages enseignants, des voyages de formation, et il se trouve que dans les enseignants que j'amène, j'y étais encore il y a deux semaines, j'ai des enseignants qui ont monté des voyages scolaires. Pas nécessairement avec le mémorial, hein, mais qui ont monté des voyages scolaires à Auschwitz. Et qui, une fois qu'ils ont réalisé la visite avec moi, entre autres, me disent, mais en fait, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris Auschwitz, j'avais mal lu à la fois le site, mais aussi les politiques qui y étaient menées. Et donc, je me dis que, effectivement, le voyage scolaire n'est pas une fin en soi, et doit d'abord donner lieu à une véritable interrogation de chaque enseignant. C'est-à-dire, pourquoi aller à Auschwitz? À quoi ça sert d'aller à Auschwitz? Est-ce que c'est une obligation pour enseigner l'histoire de la Shoah? Moi, je ne le crois pas. C'est un plus, évidemment. Mais il faut, je crois, comme vous l'avez dit, Olivier Lalieu, que les enseignants soient bien conscients de l'endroit où ils vont.
C'est un plus redoutable, d'abord parce qu'il y a de plus en plus de touristes à Auschwitz. Et il y a un jeune lycéen, Baptiste Antignani, qui a écrit un livre, qui a fait un film, Une vie nous sépare, parce qu'il a été mis en contact avec une rescapée d'Auschwitz, et pour lui, cette rencontre a été bouleversante. Elle s'appelle Denise Holstein. Et il dit ceci, même au cœur d'Auschwitz, on ne peut se représenter Auschwitz. C'est très difficile,
évidemment.
Cet effort-là d'imagination. En revanche, il me semble qu'on peut tout se représenter, tout comprendre, même ressentir beaucoup de choses en lisant attentivement les naufragés et les rescapés, et si c'est un homme de Primo Levi. Je crois quand même que la vérité passe mieux à travers les très grands textes qui ont été écrits, qui ont été arrachés au malheur, que dans le voyage lui-même.
Mais là encore, moi, j'opposerai pas l'un à l'autre. Et bon, je pense que ce soit dans ces voyages de formation ou dans ces voyages en direction du monde scolaire, l'appréhension de la complexité du site d'Auschwitz est la même au sein de notre institution, parce qu'effectivement, non seulement ça n'est pas une fin en soi, mais en plus, pour un tant soit peu essayer de comprendre et de se représenter, quand bien même ce soit possible, ce qu'a été dans toute sa complexité Auschwitz-Birkenau, il faut avoir, qu'on soit élève ou adulte, ou enseignants à l'esprit un certain nombre de ces clés de compréhension, de ces connaissances et aussi de ces grands récits dont vous avez fait état. On peut y associer Charlotte Delbault, par exemple,
oui.
Et d'autres qui, justement, sont nécessaires à la lecture, au décryptage de ce site unique.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui, je suis d'accord avec ça. Avec quand même, moi, j'ai toujours un questionnement, c'est-à-dire la question de l'émotion. La question de l'émotion, notamment sur le site. Alors, non pas sur le site de Birkenau, parce qu'on peut visiter le site de Birkenau en mettant à distance l'émotion. Mais c'est très difficile dans le musée d'Auschwitz, dans le camp, ce qui était le camp numéro 1, où effectivement les amas de cheveux, les amas de valises, etc., peuvent provoquer un véritable choc émotionnel. Que reste-t-il de cette émotion et à quoi sert cette émotion? Vous savez, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'une émotion en chasse une autre. Et que voir une image choquante à la télévision peut réactiver un sentiment émotionnel qui a été très fort. Et finalement, le danger pour moi, c'est que ce qui a été vécu comme émotion à Auschwitz, notamment au camp numéro 1, eh bien, ressurgisse pour d'autres choses. Et que tout finisse par ressembler à Auschwitz.
Tout, voilà. Et ça, c'est en effet... le risque qu'il faut éviter. Merci beaucoup Yannis Roeder, merci beaucoup Olivier Lalieu. Yannis Roeder, je rappelle le titre de votre livre, Sortir de l'ère victimaire pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse. Ce livre est publié aux éditions Odile Jacob. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable pendant un an et écoutable à vie. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « Banlieue française ». Mes invités seront Didier Dédinx et Bernard Rougier. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et Laurence Malonda. À la technique aujourd'hui, Pierre Monteil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannonet.